Et maintenant, midi temps universel, 14h ici à Paris, 10h à Saint-Pierre-et-Miquelon. Bonjour, bienvenue.
Charlotte Dutrac.
Et rendez-vous le 5 juillet en Iran pour un second tour de la présidentielle. Il opposera des profils que tout oppose justement, en tout cas sur le papier. Le réformateur Massoud Pezeshkian est arrivé en tête devant l'ultra-conservateur Saïd Jalili. La participation a été faible, autour de 40%. Une participation qui pourrait être record en France pour les législatives anticipées à suspense. Le scrutin pour la plupart des citoyens, ce sera demain. Mais on vote déjà à Saint-Pierre-et-Miquelon en Atlantique Nord ce samedi, 3 semaines après la dissolution choc du président Macron et le séisme politique qui a suivi. À suivre aussi des relax dans le méga scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. Le quotidien des habitants de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine, rythmé par les alertes et les bombardements russes. Et puis le Tour de France cycliste, c'est parti. Les coureurs sont entrés dans le dur d'emblée avec une première étape corsée au départ de Florence en Italie et sous un soleil de plomb. Le journal des sports, c'est dans 10 minutes.
RFI Midi. RFI à Paris, 89 FM.
C'est donc un duel qui s'annonce en Iran après le vote d'hier. Le premier tour, il y en aura un second. Il opposera, je vous le disais, deux candidats très différents. Le réformateur Massoud Pezeshkian arrivé en tête avec 42% des voix devant le très conservateur Saïd Jalili qui en a obtenu 38%, partisan de la ligne dure dans le pays et vis-à-vis de l'étranger également. À noter la participation, elle a été assez faible hier, à environ 40% malgré les appels pressants des autorités pour aller voter. Rendez-vous donc désormais le 5 juillet pour départager les deux candidats. Le modéré Massoud Pezeshkian n'est pas favori. Alors, d'où vient-il, Antoine Galen? Ce n'est pas une figure historique du camp des réformistes.
Eh bien, c'est un grain de sable dans la campagne pour certains, un faux espoir pour d'autres. Massoud Pezeshkian, connu pour son franc-parler, n'a pas hésité à critiquer le pouvoir en place lors du mouvement de protestation provoqué par la mort de Mahsa Amini en septembre 2022. Sans remettre en cause le système, le candidat réformateur a dénoncé les méthodes de répression des manifestations contre le port du voile. Pendant cette campagne électorale, il s'est notamment démarqué de ses adversaires en diffusant dans son QG l'hymne du mouvement de protestation « Femme, vie, liberté ». Ce chirurgien de profession, âgé de 69 ans, est député de Tabriz, grande ville au nord-est de l'Iran. Son expérience gouvernementale se résume à un seul poste, celui de ministre de la Santé entre 2001 et 2005, dans le gouvernement du réformateur Mohammad Ratami. Pendant la campagne, le candidat a prôné un réchauffement avec les pays occidentaux, États-Unis en tête, pour lever les sanctions qui pèsent sur l'économie iranienne. Mais en Iran, la politique étrangère est une prérogative du guide suprême Ali Khamenei. La marge de manœuvre de Massoud Pezeshkian, s'il est élu, serait donc étroite.
Antoine Galen, cette élection en Iran, le premier tour et ses enseignements, on y revient après le journal avec notre invité. Il sera en direct, le chercheur David Rigoulet-Rose. I can do this job, je peux faire le boulot. Joe Biden, 81 ans, a tenté de rassurer hier lors d'un meeting en Caroline du Nord après son débat télévisé raté face à Donald Trump. Le président démocrate a reçu le soutien remarqué de Barack Obama. Les mauvais débats, ça arrive, a dit l'ancien chef de l'État. Mais de plus en plus de voix appellent à un plan B pour l'élection présidentielle de novembre. Le New York Times demande clairement à Joe Biden, par exemple, de se retirer de la course à la Maison Blanche. Dans un édito, le prestigieux journal salue le bilan du président, mais il estime que le plus grand service public que pourrait rendre Joe Biden aujourd'hui serait d'annoncer qu'il ne se représentera pas à l'élection. Cela fait des mois que la Russie grignote du terrain dans l'est de l'Ukraine. Moscou revendique ce samedi la prise d'un village près de Toretsk, un verrou important dans ce secteur. Des bombardements russes qui font partie du quotidien également à Pokrovsk, toujours dans la région de Donetsk. Les habitants restés sur place font avec. Reportage Emmanuel Chaz.
C'est l'un des axes où les combats sont les plus actifs en Ukraine, celui de Pokrovsk, un district jouxtant la partie occupée de la région de Donetsk dans l'est du pays. Pour les habitants des villes et villages de la région qui ont décidé de ne pas évacuer, le quotidien est rythmé par des alertes aériennes et des bombardements et le moral est éprouvé, comme le confie Tetiana, une économiste dans un hôpital de la ville de Pokrovsk.
Bien sûr, en vivant ici à Pokrovsk, nous sommes très inquiets et nous avons peur. Notre petit-fils de 6 ans est traumatisé par les bombardements, mais nous restons. Notre travail est ici et nous n'irons nulle part.
À Pokrovsk, on continue à vivre, mais sans aucun sentiment de sûreté. La forte présence militaire ainsi que les bombardements rappellent que la ligne de front n'est qu'à environ 25 km. Artem, lui, a survécu au missile Iskander russe lancé sur son quartier le 24 juin. 5 personnes sont mortes et plus de 40 ont été blessées. La maison d'Artem, comme des dizaines d'autres, a été lourdement endommagée.
C'est difficile parce qu'on n'a plus de maison, plus de fenêtres, plus de portes. Il faut tout reconstruire. C'est très dur.
Alors que les Russes lancent des dizaines d'assauts contre Pokrovsk dans le but d'occuper l'ensemble de la région de Donetsk, les habitants éprouvés tentent de continuer à vivre avec la menace bien réelle d'une occupation russe si les lignes de défense ukrainiennes venaient à flancher et le risque constant des bombardements. Emmanuel Chaz, Pokrovsk, RFI.
Un congrès sous haute tension en Allemagne, celui de l'AfD, le parti d'extrême droite, réuni à Essen dans l'ouest du pays. Un congrès 3 semaines après les élections européennes et le score historique de l'AfD arrivé en 2e position avec près de 16% des voix. Des milliers de manifestants anti-extrême droite comptent jouer les troubles faits. Certains d'ailleurs ont déjà été arrêtés dans la matinée en marge de ce congrès. L'enquête baptisée Panama Papers avait entraîné un scandale international retentissant. Et bien 8 ans après, la justice du Panama a relaxé 28 personnes accusées de blanchiment d'argent dans cette tentaculaire affaire d'évasion fiscale et avec au centre le cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca. Agnieszka Komor.
D'après la juge, les 11,5 millions de documents recueillis sur les serveurs du cabinet ne respectaient pas la chaîne de traçabilité. Leur authenticité et intégrité n'étaient donc pas assurées. Et les autres preuves n'étant pas suffisantes, la responsabilité pénale des prévenus n'a pas pu être établie. Parmi les personnes relaxées, Ramon Fonseca, mort dans un hôpital panaméen, ainsi que Jürgen Mossack, fondateur du cabinet d'avocats. Si le procès a fait chou blanc, le scandale des Panama Papers, survenu en 2016 à la suite d'une investigation du consortium international de journalistes, continue de porter ses fruits. L'enquête lauréate du prix Pulitzer a révélé l'ampleur de l'évasion fiscale. Plusieurs personnalités ont été pointées du doigt, comme le président russe Vladimir Poutine, l'ancien premier ministre britannique David Cameron, la star du foot Lionel Messi ou l'ancien ministre français du budget Jérôme Cahuzac. La loi a depuis évolué. Plusieurs millions d'impôts ont pu être récupérés par le fisc, dont en France, près de 200 millions d'euros.
Agnieszka Komor, en France, justement, 3 semaines après le séisme politique de la dissolution annoncé par le président Emmanuel Macron, le vote a déjà débuté pour le premier tour des législatives anticipées dans certains territoires d'outre-mer ce samedi, comme à Saint-Pierre et Miquelon, qui a ouvert le bal dans l'Atlantique Nord. Pour la majorité des citoyens, rendez-vous demain pour ce scrutin où la participation est attendue en forte hausse. Parmi les thèmes principaux de cette courte campagne pour les législatives françaises, le pouvoir d'achat, les retraites ou encore l'immigration. Et le lien est tout trouvé pour vous raconter l'histoire de ce jeune homme malien. Il devait être expulsé hier après-midi, mais c'était sans compter la mobilisation des passagers d'un vol Paris-Bamako. Un appel avait été lancé sur les réseaux sociaux à travers le hashtag Libérez Moussa. Il appelait les voyageurs de l'aéroport d'Orly à exiger le débarquement de ce jeune homme de 25 ans, acteur associatif de Montreuil et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Et voilà, la mobilisation a payé. Moussa a finalement été débarqué de l'appareil, donc il échappe momentanément à cette expulsion. Reste à savoir pour combien de temps, Amélie Beaucourt.
La scène se déroule ce vendredi après-midi dans un avion stationné sur le tarmac de l'aéroport d'Orly. Des passagers refusent de s'asseoir et préviennent le personnel de bord. Pas question que l'appareil ne décolle tant que Moussa ne sera pas ramené au sol. Cet homme de 25 ans est sur le point d'être expulsé vers le Mali, pays où il est né, mais qu'il a quitté pour la France alors qu'il était enfant. Cette obligation de quitter le territoire lui a été notifiée il y a un mois lors de l'évacuation d'un squat à Montreuil, géré par l'association Hangar, pour laquelle Moussa effectuait des maraudes sociales. Au moment de son arrestation, le jeune homme attend un titre de séjour provisoire octroyé par le tribunal administratif, mais jamais délivré par la préfecture. Grâce à l'appel relayé notamment par la militante antiraciste Assa Traoré ou le chanteur Kalash, Moussa a finalement été débarqué de ce premier vol, mais d'autres seront bientôt programmés. Il a été reconduit en centre de rétention administratif où il est enfermé depuis son arrestation et où il pourra rester pour une durée maximum de 90 jours.
14h10, ici à Paris, tout de suite du foot, du cyclisme, de l'athlétisme, le journal des sports, c'est l'heure. Bonjour Sofiane Amazian.
Bonjour à tous.
Alors avant d'évoquer le Tour de France, le foot d'abord, début des huitièmes de finale de l'Euro en Allemagne. L'Italie, championne d'Europe en titre, affronte la Suisse et puis l'Allemagne va se frotter au Danemark.
Et l'Italie, la Squadra Azzurra, très peu rassurante en phase de groupe deuxième derrière l'Espagne avec 4 points récoltés, affronte une équipe suisse qui reste sur un nul contre l'Allemagne 1-1. La Suisse qui aime faire tomber les gros en huitièmes de finale, souvenez-vous. En 2021, les Helvètes avaient éliminé les Bleus au tir au but, coup d'envoi de ce Suisse Italie depuis Berlin, 16h temps universel juste après. L'Allemagne qui est en mission à la maison pour soulever la coupe et qui a survolé la phase de groupe en face. Le Danemark n'a toujours pas perdu et n'a toujours pas gagné non plus. 3 matchs nuls, la défense tient bon mais l'attaque est en berne, seulement 2 buts marqués. L'analyse du sélectionneur Kasper Hjulmand.
C'est vrai qu'on a eu des difficultés à marquer lors des 3 matchs, des matchs très différents les uns des autres. Notre volonté a toujours été d'avancer et de marquer. Ça apparaît clairement quand vous regardez nos matchs, c'est notre objectif. Mais ce n'est pas qu'un problème d'attaquant. Si vous concédez des buts, ce n'est pas seulement la faute des défenseurs ou du gardien, c'est la responsabilité de toute l'équipe. Donc je pense qu'on n'a pas toujours servi Rasmus Højlund comme il l'aurait fallu. Il était dans la surface, il était au bon endroit au bon moment. Alors ça ne dépend que de notre capacité à créer des occasions. On a eu la balle, on a fait beaucoup de passes dans les 30 derniers mètres, mais on doit travailler notre capacité à trouver Rasmus. Face à l'Allemagne, ce sera un match différent, donc on verra s'il joue ou non.
Allemagne-Danemark, match à suivre en direct et en intégralité sur RFI. Antoine Grenier au commentaire depuis Dortmund, Babacar Diarra en studio, coup d'envoi 19h, temps universel.
Il n'y a pas que le foot dans la vie, l'athlétisme aussi, les championnats de France qui se disputent à Angers. À suivre ce samedi, notamment les finales du 100 mètres haies chez les femmes et le 3000 mètres steeple chez les hommes.
Oui, Sirena Samba Mayela, la superstar mondiale du 100 mètres haies et qui a réalisé la meilleure performance de l'année lors des championnats d'Europe en 12 secondes 31, est incertaine car positive au Covid. Aucun risque ne sera pris. Sur 3000 mètres steeple, le récent champion d'Europe Alexis Miellet est lui touché à la cheville. Problème, 4 Français sont qualifiables pour les Jeux, mais pour 3 places, ça crée casse-tête pour le champion d'Europe qui pourrait donc manquer les Jeux de Paris.
On dit stiple, je l'ai dit à l'anglaise. Oui, bon, allez, on en vient au cyclisme. C'est le début officiel du Tour de France ce samedi, première en Italie, donc pays de départ de la Grande Boucle cette année. Les 176 coureurs sont partis là il y a un peu plus d'une heure.
Ouais, c'est ça, première des 3 étapes italiennes de cette 111e édition du Tour de France. 206 km entre Florence en Toscane et Rimini sur la côte adriatique. Pour l'instant, environ 60 km parcourus et une échappée de 8 coureurs à déjà 5 minutes du peloton. Une étape avec du relief et qui mettra les coureurs dans le dur, assure le directeur du Tour, Christian Prudhomme.
Quand on part de Florence et qu'on va vers l'Adriatique, on passe par les Apennins, on passe par Saint-Marin, et là, en effet, il y a une succession de cols et de côtes, en l'occurrence 7 ascensions répertoriées. Puis il y aura un autre élément important pour la première étape du Tour de France, c'est la chaleur. Il a fait très mauvais jusqu'ici, et il y aura 35 degrés pour cette première étape. Il y aura un pic de chaleur sur cette première étape, ensuite ça va redescendre, on tombera à 20 degrés quelques jours après. Mais pour cette première étape, plus de 200 km, avec des routes qui montent, qui descendent, qui tournent à droite, qui tournent à gauche, et de nombreuses ascensions, oui, ça ajoutera la difficulté sans aucun doute.
Et Christian Prudhomme au micro de Thomas de Saint-Léger.
À tout à l'heure, Sofiane Amazian. Rimini, donc arrivée de cette première étape du Tour de France au bord de la mer Adriatique. Ça peut paraître idyllique. C'est aussi là où, il y a 20 ans, la police a retrouvé, dans une chambre d'hôtel, le corps sans vie de la dernière grande icône populaire du cyclisme italien. J'ai nommé Marco Pantani, grimpeur d'exception, dernier coureur à avoir gagné le Tour de France et le Tour d'Italie la même année, surnommé le pirate. Il avait le crâne rasé, des boucles d'oreilles et ses célèbres bandanas. Et 20 ans après, ils sont encore nombreux à lui rendre hommage dans sa ville natale où il repose désormais, dans la petite station balnéaire de Cesenatico. Reportage Thomas de Saint-Léger.
Le pèlerinage débute à la descente du train. Un petit bâtiment en briques collé à la gare. Voici l'espace Pantani, 3 pièces bien chargé, entièrement dédié aux exploits du pirate, derrière le comptoir ce jour-là, Ferdinando di Paolo, son papa.
Ce musée, je l'ai fait construire et j'ai rassemblé tous les souvenirs, les maillots, les trophées, les vélos de Marco. Il est ici avec nous.
Marco est qui.
Marco en maillot jaune, en maillot rose, avec le pape, Marco à moto, en photo ou sur des écrans, le visage de l'icône est partout. Chaque année, 12 000 visiteurs du monde entier, toutes générations confondues, viennent se souvenir du champion d'exception et de l'homme qui leur ressemblait tant. Piero a fait près de 1000 km pour passer quelques minutes ici.
Sur le livre d'or, j'ai écrit « On ne t'oubliera jamais ». Encore aujourd'hui, je regarde des vidéos de lui sur YouTube et ça me donne des frissons. Maintenant, il y a plein de bons coureurs, mais des comme lui, non. Personne ne nous donne ses émotions, pas même Pogacar.
C'est un style, Pantani. Il y a eu des chansons sur Pantani. Ça devient un héros, presque la culture populaire.
Pierre Carré est journaliste spécialisé, auteur d'un livre sur le cyclisme italien.
La légende courait que Marco Pantani devait freiner dans les virages de l'Alpe d'Huez en montée. Il avait le bandana. C'est un pirate. Pantani, c'est l'anarchiste, l'homme qui vient prendre une revanche sociale, défier les plus grands. Il détestait Armstrong. Pour lui, Armstrong, c'était un parvenu. C'était aussi un robot. C'était un maître. L'homme qui voulait réduire le peloton en esclavage. Et Pantani, face à Armstrong, c'est l'homme qui s'est levé, qui disait « moi, jamais ».
À quelques centaines de mètres du musée, dans le cimetière de la ville, Gabriella et son mari viennent de se recueillir sur la tombe de Marco Pantani.
À chaque fois que nous venons profiter de la mer, nous faisons une étape par ici. J'aimais la façon d'être de Pantani, sa simplicité. Je pense que c'était un bon garçon, mais il a mal fini.
Il a fini seul dans une chambre d'hôtel anonyme, overdose de cocaïne, un suicide selon une enquête contestée par la famille. Depuis quelques années, Pantani allait mal, un contrôle antidopage positif, une exclusion de course. La part d'ombre de sa vie l'a emporté et les coureurs d'aujourd'hui prennent leur distance, à l'image de Romain Bardet.
C'est pas une génération dont j'aime forcément me rappeler, c'est dans les années sombres du vélo. Mais après voilà, on voit que c'est un champion qui est adoré. Pour l'aura qu'il a, certainement la fin tragique aussi, je sais pas, il y a une sorte de mythe. Mais oui, moi voilà, j'ai pas grandi avec ces idoles-là.
Idole contestée, mais idole quand même, Marco Pantani restera l'un des derniers romantiques du cyclisme. Un sport où aujourd'hui, les pirates se font rares. Thomas de Saint-Léger, Cesenatico, RFI.
À Cesenatico, comme à Paris, presque 14h18.
RFI Midi, Charlotte Hydrac.
Retour en Iran, où il y aura donc un second tour de la présidentielle, un scrutin pour remplacer le président décédé, Ebrahim Raisi. Bonjour David Rigoulet-Rose.
Bonjour.
Vous êtes en direct avec nous, merci. Vous êtes chercheur spécialiste du Moyen-Orient, rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique, chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef également de la revue Orient Stratégique. On en parlait dans le journal, les deux candidats arrivés en tête, le réformateur Massoud Pezeshkian et l'ultra-conservateur Saïd Jalili, se retrouveront donc pour un second tour le 5 juillet. La dernière fois qu'il y a eu un second tour en Iran, c'était en 2005. C'est une configuration très rare dans l'histoire politique du pays. Est-ce que ça vous a surpris?
Oui, on n'est pas dans le contexte de 2005, hein, même si effectivement vous avez raison de rappeler que c'est la deuxième fois qu'il y a ce type de situation. Mais le contexte est très très largement différent. En réalité, aujourd'hui, le régime effectivement est de plus en plus contesté. On l'a vu dans le prolongement des manifestations après le décès de Mahsa Amini.
En 2022.
Et semble-t-il, le guide suprême avait pris acte effectivement d'une forme d'impasse de l'expression politique monolithique qui avait donné lieu à l'élection du président Raisi en 2021. Ce qui est intéressant, c'est que le guide suprême poussait évidemment la population à aller voter.
Il y a eu des appels très forts à la mobilisation.
Absolument, parce que pour évidemment, c'est la caution aussi du régime, le fait qu'il y ait un électorat qui se déplace. Or, de ce point de vue-là, c'est un échec, puisqu'il semblerait qu'il n'y ait que 40% de votants.
Donc un désaveu pour le guide suprême ?
Oui, encore moins que lors de l'élection de 2021, qui pourtant était en apparence encore plus verrouillée, d'où probablement une stratégie de déverrouillage fictionnel, avec la présentation d'un réformateur, Massoud Pezeshkian. Sans préjuger de son honnêteté personnelle, mais ça s'inscrit effectivement dans une stratégie du Nizam, du système iranien, pour laisser penser que il y a encore une marge de respiration démocratique, alors même qu'elle est très très largement hypothéqué.
Alors c'est vrai que ce réformateur n'était pas très connu jusqu'ici. Pour vous, c'est une stratégie des autorités de l'avoir autorisé à se présenter ?
Ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, tous les candidats sont sélectionnés officiellement par le Conseil des gardiens, hein, c'est-à-dire il y a 12 membres qui sont ou directement ou indirectement adoubés par le guide suprême. Mais il semblerait que depuis, avant même l'élection de 2021 du président Raisi, il y a une structure occulte, hein, ad hoc, qui en arrière-plan, qui serait chargée effectivement d'une forme d'ingénierie électorale. Avec l'idée de mettre en place un filtrage avec une surveillance des candidatures dans la perspective de pérenniser une forme de gouvernement et de société islamique. Et il se trouve que vraisemblablement cette structure est très liée au bureau du guide dont son fils Mojtaba est une figure centrale, avec l'idée que finalement le processus électoral doit être entretenu comme une fiction pour assurer la survie du régime. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, depuis le décès de Mahsa Amini, il y a tout un pan de la population qui estime que c'est même plus nécessaire d'aller voter.
Les jeunes, surtout.
Notamment ceux qu'on appelait la génération Z. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la stratégie de ciblage de l'électorat, en réalité, le régime a admis implicitement le fait que c'était pas la peine de les solliciter. Et donc, ils ont poussé effectivement au vote la frange trentenaire et les quadras, en espérant qu'il y ait, en termes de votants, un score suffisant. Manifestement, c'est pas le cas. Donc, quel que soit le résultat, de toute façon, ça va poser un problème.
Donc, pour vous, le lien est rompu entre les autorités et la population, et notamment la jeune génération. Le fossé est trop creusé depuis la contestation de 2022 ?
Ah oui, il y a probablement quelque chose d'irréversible, hein, qui s'est produit, quelle que soit la politique de répression accrue qui a pu être manifestée par la suite, notamment sur le hijab. D'ailleurs, ça a été un objet de débat électoral. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, il y a une défiance avérée, de toute façon, avec cette génération. Et donc, ça hypothèque, de toute façon, à terme, la survie du régime, même si ses capacités, évidemment, répressives lui permettent de se maintenir.
Est-ce que pour vous, Massoud Pezeshkian peut réellement accéder au pouvoir ? Vous y croyez ?
C'est peu probable, parce que quand on regarde arithmétiquement, de toute façon, le résultat, c'est qu'il serait crédité de 42% au premier tour, contre 38,5% à son concurrent ultra-conservateur, sinon ultra-radical, Saïd Jalili, avec l'ordre de 14% pour le candidat Khalid Baf. Donc mathématiquement, en principe,
il n'est pas favori, effectivement.
Il serait battu.
Allô.
Électoral, oui.
On vous a...
Ce qui est inscrit dans le processus électoral. Et donc, effectivement, la population, globalement, ne se fait pas beaucoup d'illusions sur le résultat.
Rendez-vous donc le 5 juillet pour le second tour de cette élection en Iran. Merci beaucoup à vous, David Rigoulet-Rose. Merci d'avoir été en direct avec nous.
RFI Midi.
24-32-58-24.
La chronique transport et cette question relancée par une récente vidéo. Est-ce qu'on doit obliger les cyclistes à porter le casque à vélo pour le célèbre cuisinier britannique Gordon Ramsay ? C'est clair, c'est oui. La semaine dernière, sa vidéo a été l'une des plus regardées sur les réseaux. Il s'est filmé dans sa cuisine, sa main tremblante. Il a montré son ventre gorgé de sang après un accident en suppliant le public de porter un casque. Et pourtant, aujourd'hui en Europe, il n'y a qu'un seul pays qui oblige les cyclistes à porter le casque, Marina Mielzarek.
Salut tout le monde, c'est Gordon. Vous savez combien j'aime le vélo, alors qu'importe le temps du trajet, qu'importe le prix du casque, nous devons tous le porter. Sans ce casque, les ambulanciers l'ont dit, je ne m'en serais jamais sorti vivant et je ne serais pas là pour vous parler aujourd'hui.
Malgré son cri du cœur et le succès de la vidéo, Gordon Ramsay n'a pas persuadé les foules. Aucun gouvernement, aucune association de cyclistes n'en a profité pour appeler la population à porter un casque à vélo. C'est le cas du moins en Europe où seule la Finlande a voté une loi d'obligation. Ailleurs, toujours sur le continent, il n'existe que des lois pour les enfants. Par exemple, obligatoire jusqu'à 12 ans en France, jusqu'à 15 ans en Suède. Dans le monde, il existe deux grands pays où les adultes, sous peine d'amende, doivent porter le casque à vélo. Le Canada et l'Australie. Les chiffres l'ont montré, ils sont valables sur la Terre entière. En cas de chute, le casque réduit de 60% le risque de traumatisme crânien. Alors, pourquoi une telle réticence? Luc Goffinet représente l'un des groupements de cyclistes européens. Pour lui, l'obligation est une telle contrainte qu'elle fait chuter le nombre de cyclistes.
Alors, nous sommes contre le port du casque obligatoire parce qu'en fait, c'est un frein supplémentaire à la pratique du vélo et donc c'est tout à fait contre-productif. Il y a d'abord le prix. Ensuite, il y a des gens pour qui n'aiment pas le casque. J'ai des filles, personnellement, qui n'aiment pas du tout porter le casque aussi parce que c'est pas spécialement beau. Des grands cheveux, c'est compliqué. Il y a plein de raisons de ne pas avoir envie de porter un casque.
En France, le sénateur François Bonneau est l'un des seuls hommes politiques à s'être battu pour une loi d'obligation pour les cyclistes. Et croyez-le, il en a entendu de toutes les couleurs, comme il dit.
C'était de dire, de toute façon, les choses vont se faire d'elles-mêmes, pourquoi créer une loi? Malheureusement, quand on voit l'augmentation des accidents graves et des décès, que ce soit en ville ou à la campagne, cet argument, malheureusement, il ne tient pas. Et puis le dernier, c'était, de toute façon, vraiment, on va adapter les villes et les campagnes au vélo et tout se passera bien. Malheureusement, il faudra probablement des décennies avant de bénéficier de pistes cyclables vraiment sécurisées. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont blessées à vie avec des séquelles et qui, simplement par le port du casque, auraient pu éviter ça.
Le casque obligatoire à vélo n'est pas à l'agenda du transport à la Commission de Bruxelles. En tout cas, pas pour les 2 ans à venir. C'est bien pour tenter de forcer les choses que le sénateur français que vous venez d'entendre vient d'accéder à un poste européen. Il plaidera la cause dès l'automne prochain.
Marina Mielzarek, le casque pas forcément obligatoire, mais recommandé. 14h26 à Genève.
RFI Midi. RFI à Ziguinchor. 87.6 FM.
Avant le prochain journal africain, détour par la Suisse où se tient en ce moment l'exposition Mémoire. Genève dans le monde colonial. À partir de 350 objets de sa propre collection, le musée d'ethnographie de Genève mène une véritable enquête sur l'histoire de ses œuvres et leur donne une nouvelle vie, une nouvelle voix aussi grâce à des collaborations aux quatre coins du monde. Ambition affichée, se pencher sur le passé colonial pour mieux se projeter dans le futur. Carmen Linsman.
Questionner le passé colonial de manière constructive, c'est cet esprit qui anime l'exposition Mémoire Genève dans le monde colonial. Une exposition qui se veut ni repentante, ni moralisatrice. Floriane Morin, conservatrice en charge des collections africaines au musée d'ethnographie de Genève.
Ce qu'on a tenté de faire dans cette exposition, c'est de raconter notre passé par le présent, par des personnes qui ont un lien intime avec des objets souvent sensibles dans les collections. Les bronzes de Bénin, par exemple, ici au Meg, ont clairement été pillés pendant le sac de Bénin en 1897 par les troupes coloniales britanniques. Et l'idée, c'est de travailler avec nos partenaires au Nigeria et ses propriétaires légitimes, le royaume Edo de Bénin, qui ont besoin de ces objets, qui sont leur mémoire collective, pour pouvoir se raconter au présent et au futur.
Il y a une réconciliation qui se fait sous vos yeux.
Parmi les plus de 30 partenaires, Jean-Didier Ekori et Jean Lignongo, deux chercheurs congolais du peuple des Kota.
Il y a un penseur africain sénégalais qui a dit: quiconque tient la spiritualité d'un peuple contraint ce peuple à vivre dans la servitude éternelle. Et nous, notre souci, c'était de rétablir la spiritualité des sculpteurs, des forgerons.
Et donc, il y a à la fois des sculptures, mais également des écorces d'arbres sacrés. Parce que les peuples Kota sont des peuples forestiers. Leur spiritualité est ancrée dans la forêt.
Replacer les objets dans leur contexte et dénoncer les méthodes absurdes, voire racistes, c'est aussi au cœur de la démarche de Madeleine Leclerc, responsable des collections d'ethnomusicologie au MEG.
Un exercice qui a fasciné les anthropologues et le milieu de la muséographie, c'est le classement, la frénésie du classement. Il y a en 1930, un médecin qui a proposé une classification des instruments de musique assez improbable, avec comme idée qu'il y a des instruments simples et d'autres qui sont plus complexes et que le développement en complexité de la facture instrumentale irait de pair avec le développement culturel des sociétés dans le monde.
Mais de l'oppression naît aussi la résistance, rappelle Yvonne Gonzalez, avocate et artiste afro-cubaine qui s'est penchée sur l'esclavage au Brésil.
Dans ces murs, on trouve un extrait d'un poème de Luis Pinto de Gama qui est devenu esclave. Son père l'a vendu. Et donc, il a écrit ce poème-là pour en parler, de perdre sa condition d'homme libre pour devenir un meuble, en fait, un objet. Mais malgré ça, il a appris à lire et à écrire en étant en esclavage, en se cachant. Et après, c'est devenu quelqu'un qui était journaliste, écrivain, poète, avocat, quelqu'un qui a lutté toute sa vie pour l'abolition de l'esclavage, qu'il n'a pas vu. Il est mort 6 ans avant que l'esclavage soit aboli au Brésil.
«
Mémoire Genève dans le monde colonial, c'est donc au MEG jusqu'au 5 janvier.
Cette semaine, Vous m'en direz des nouvelles est à Avignon avec Jean-François Cadet.
Théâtre, danse, cirque, performance, chaque été, toutes les disciplines du spectacle vivant prennent leur quartier dans le sud de la France, à Avignon. Toute la semaine, avec nos invités et nos reportages, nous vous faisons vivre la diversité du festival off et bien sûr le festival in qui cette année met à l'honneur l'Espagne.
Vous m'en direz des nouvelles ? Rendez-vous avec Jean-François Cadet du lundi au vendredi à 15h10 TU. RFI.